Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Arsenic, curare, amanite phalloïde, polonium, tous ces poisons peuvent nous faire passer de vie à trépas en un rien de temps. Très tôt, les hommes ont appris à utiliser les substances toxiques qu'ils trouvaient dans la nature pour la chasse, mais aussi pour se débarrasser discrètement de leurs ennemis. Bien utilisées, certaines de ces substances peuvent aussi nous soigner. Alors quels sont les poisons naturels les plus puissants? Comment agissent-ils sur notre organisme? Et que faire en cas d'intoxication? On en parle aujourd'hui dans le dossier de La Tête au Carré, en compagnie d'un spécialiste de l'histoire des poisons, Éric Birloez, et un médecin réanimateur toxicologue, Bruno Mégarban. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et cette semaine, c'est Agnès Fèvre qui s'occupe de la Une de la Science. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
Alors aujourd'hui à la Une, le nouveau vaccin contre le virus Ebola qui suscite beaucoup d'espoir.
Oui, il s'appelle RVSV Zebov, un nom barbare pour un vaccin qui affiche de très bons résultats, jusqu'à 100% d'efficacité contre le virus Ebola, dont la dernière épidémie a fait, rappelons-le, plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. On parle de ce vaccin aujourd'hui avec Jean-François Delfrécy.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Hugo Struna.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Deux spécialistes des poisons autour de la table, Bruno Mégarban et Éric Birloez. Bonjour.
Bonjour.
Éric Birloez, dans votre livre « Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs » édité chez Ouest France, on découvre qu'il existe des poisons redoutables pour l'homme dans la nature, produits parfois par des toutes petites bêtes qui ne payent pas de mine, hein, une toute petite grenouille bleu flashy.
Voilà, qui est une petite grenouille colombienne, alors qui a un nom très évocateur, Phyllobates terribilis. Elle est effectivement terrible parce que la quantité de poison que l'on peut trouver sur la peau d'un seul de ces petits batraciens pourrait tuer jusqu'à une dizaine de personnes. Et d'ailleurs, les Indiens de Colombie avaient l'habitude d'utiliser ce poison pour en enduire la pointe de leur flèche, ce qui est d'ailleurs le premier sens du mot toxique. Toxicon en grec, c'est poison pour pointe de flèche.
Alors Bruno Mégarban, vous êtes médecin réanimateur spécialisé en toxicologie clinique dans le service de réanimation dans lequel vous travaillez. On imagine qu'il y a peu de victimes de flèches empoisonnées. Quels sont les types d'empoisonnement que l'on trouve aujourd'hui ?
Alors exactement, effectivement, les poisons végétaux et extraits des animaux sont heureusement pour nous rares aujourd'hui. Je ne vais pas vous surprendre, mais l'intoxication la plus fréquente en France, c'est l'intoxication par l'alcool, tout simplement.
Ah oui.
Beaucoup de ces patients arrivent parfois aux urgences ivres, voire avec un trouble de conscience important. Alors en réanimation, on a beaucoup plus d'intoxication médicamenteuse, avec les médicaments les plus fréquents dans notre environnement, donc les anxiolytiques, le paracétamol, les analgésiques. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que l'intoxication qui est la plus mortelle au jour d'aujourd'hui, c'est celle liée aux analgésiques opioïdes. Et récemment, le décès du chanteur Prince a mis en avant cette actualité.
Vous nous direz dans cette émission quels sont les bons gestes à avoir en cas d'intoxication ou d'empoisonnement. On s'intéresse aux poisons et à leur histoire dans La Tête au Carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la Une de la Science, une avancée majeure dans la lutte anti-Ebola avec un nouveau vaccin qui prouve son efficacité contre ce virus.
C'est un cri d'alarme qu'a lancé le ministre libérien de la Défense devant le Conseil de sécurité. Brauni Samukai a expliqué que les infrastructures déjà défaillantes du Libéria sont maintenant complètement dépassées par l'épidémie d'Ebola.
Nous en sommes arrivés à un point où le Libéria est menacé dans son existence même. La maladie qui avait été identifiée dans des villages isolés atteint maintenant les centres urbains, y compris la capitale, Monrovia. Elle se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage.
Extrait d'un journal de France Inter du 10 septembre 2014. Alors Ebola est le nom d'une rivière dans l'ex-Zaïre où la fièvre Ebola a été identifiée pour la première fois. C'était en 1976. 40 ans plus tard, des chercheurs annoncent dans la revue The Lancet qu'un vaccin expérimenté en Guinée en avril 2015 se révèle très efficace. Entre-temps, cette fièvre hémorragique particulièrement contagieuse aura provoqué une hécatombe de plus de 11 000 personnes qui sont mortes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria entre 2013 et 2016. Alors, que va changer l'arrivée du nouveau vaccin? On en parle avec Jean-François Delfrécy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de microbiologie et des maladies infectieuses et coordinateur interministériel bactérielle de la lutte contre Ebola. Alors l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parle d'un vaccin jusqu'à 100% efficace contre le virus Ebola. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie qu'on a maintenant un vaccin, un outil vaccinal qui est vraiment efficace. Alors est-ce qu'il est à 100% ? Probablement non. Hein.
Monsieur Delfrécy ?
On vient de perdre... Si, c'est bon. De nouveau. Alors, pardon, il y a eu une petite coupure. On vous laisse reprendre donc sur l'efficacité de ce vaccin.
C'est un vaccin qui probablement pas couvre à 100%, mais qui est efficace et indiscutable. On a véritablement entre les mains un outil vaccinal important qui permettrait, en effet, en cas de reprise d'une épidémie, d'avoir un outil de prévention à la fois pour les populations soignantes et les plus exposées, on le sait, et puis probablement mettable aussi en situation de population générale.
Et jusqu'à 100%, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des zones d'ombre ?
Non, 100% c'est dans l'essai lui-même, tel qu'il était conçu. C'est un essai qui était un peu particulier, qui a été réalisé, pas directement en population générale, hein, c'est-à-dire comme on utilise d'habitude les vaccins pour regarder si ça protège une population générale, mais là il a été utilisé pour regarder si ça protégeait les contacts de personnes ayant été en contact avec Ebola ou les contacts de contacts. Donc c'est la première nuance. Bon, et là-dessus, il montre en effet qu'il y avait un bras où il y avait une vaccination précoce et un bras où il y avait une vaccination retardée. Et dans le bras avec une vaccination précoce, il y a en effet une couverture à 100%. Ce qui ne veut pas dire que le vaccin est efficace à 100%. Il doit l'être de l'ordre entre 80 et 90% à peu près.
D'accord. Et il est efficace combien de temps, on le sait ?
Alors, il y a des questions qui demeurent. On ne sait pas combien de temps il est efficace. On ne sait pas quelle est l'immunité qui réellement protège. Est-ce que ce sont des anticorps ou est-ce que c'est plutôt une réaction immunitaire cellulaire de type des lymphocytes T ? Donc on ne sait pas le mécanisme exact de protection ni sa durée, probablement supérieure à 6 mois, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas non plus s'il est efficace chez les enfants. Il y a eu à peu près 150 enfants qui ont été vaccinés dans cet essai, mais ils avaient tous plus de 6 ans, donc on ne sait pas si c'est efficace également dans la période qui est plus jeune. Donc il y a encore un certain nombre d'inconnus. La principale, c'est la durabilité. On voit bien la différence entre un vaccin qui serait réalisé une fois et qui protégerait ensuite pendant de très nombreuses années. C'est par exemple le cas du vaccin contre la fièvre jaune, ou au contraire s'il s'agit d'un vaccin qui est utilisable uniquement et qui couvre pendant une période de quelques mois, ce qui change évidemment complètement la donne.
Jean-François Delfrécy, on a l'impression cette fois-ci que ça a été très très vite, c'est-à-dire que même si le virus a été découvert il y a 40 ans, là il y a eu ce pic épidémique en 2014-2015 et le vaccin arrive maintenant. Comment expliquer déjà, est-ce que effectivement c'est rapide et comment expliquer cette vitesse ?
Alors la réponse est oui. En général, pour la mise au point d'un vaccin, il faut de très nombreuses années. Et puis on a même de grands échecs où on a encore des vaccins qu'on cherche, hein, contre le virus, oui, du sida, contre le virus de l'hépatite C par exemple, et il y en a d'autres. Il y a eu beaucoup de recherches qui a été effectuée à cause du drame qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Vous signalez que c'était un drame, une crise sanitaire qui est devenue rapidement une crise sociétale et politique dans toute cette région d'Afrique de l'Ouest. Et puis surtout, ce vaccin, en fait, on l'avait. Hein. C'est pour ça qu'il arrive si vite. Il a été découvert par des équipes de recherche canadiennes qui ont été financées par des crédits de l'armée américaine avec une visée plutôt de bioterrorisme. Mais il était dans le silence des laboratoires, non utilisé puisque jusqu'à maintenant, les épidémies d'Ebola étaient de petite taille, ne nécessitait pas l'effort considérable qui a été réalisé à cause de cette épidémie d'Afrique de l'Ouest. Et donc quand elle est arrivée, eh bien ces vaccins, dont on ne savait pas exactement ce qu'ils valaient, eh bien ont été sortis des laboratoires dans lesquels ils étaient, et il y a maintenant 3 vaccins disponibles, celui-là, qui s'avère avec une efficacité indiscutable, un vaccin de GSK et un troisième vaccin de chez Johnson & Johnson. Donc c'est à la fois rapide, mais c'est aussi des choses qui existaient déjà, qui avaient déjà été mises au point lors des années précédentes.
Agnès ?
Qu'est-ce qui en particulier rend ce vaccin aujourd'hui efficace contre alors cette souche du virus Ebola, hein, parce que ce vaccin, si j'ai bien compris, il n'est pas efficace contre toutes les souches, enfin,
il y a plusieurs souches du virus Ebola, mais il faut noter que pendant l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, c'est un virus qui n'a pas muté. Et c'était pas un virus particulier. Hein. Il était, c'était une souche particulière, mais il s'agissait pas d'un mutant particulièrement actif et on n'a d'ailleurs toujours pas compris pourquoi il y avait eu une épidémie de cette importance à ce temps donné en Afrique de l'Ouest, ce qui laisse d'ailleurs supposer que peut arriver une nouvelle épidémie. Et donc ce vaccin est efficace parce qu'il combine, il a une combinaison de deux approches vaccinales, comme on le fait souvent maintenant, qui booste un peu la réponse immunitaire et qui fait qu'elle produit probablement le type d'anticorps protecteurs qui sont nécessaires pour protéger.
Allez, une dernière question, Agnès.
Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre le virus Ebola ? Parce que ce vaccin, c'est pas non plus un remède.
Non, pas du tout. C'est à viser de prévention, hein, et de pour protéger à la fois les personnels de santé quand arrive une épidémie et protéger les contacts. Mais vous savez que cette épidémie, quand elle survient, elle passe de l'animal à l'homme, et ensuite c'est une épidémie interhumaine par le contact, en effet, des patients et des personnes qui les soignent ou des proches. Et donc on peut casser, la poursuite et la boucle de cette épidémie en vaccinant les contacts. Et c'est ce qui s'est produit, on sait maintenant que c'est efficace. Alors par ailleurs, en même temps, il y a eu d'autres recherches effectuées sur des molécules, des médicaments cette fois-ci, anti-Ebola pour traiter Ebola, puisqu'on n'avait aucun médicament contre Ebola. Et la France, en particulier avec l'Inserm, a pu mettre en évidence une molécule qui s'appelle le favipiravir, qui a maintenant une efficacité assez soutenue contre le virus Ebola. Donc on a presque un médicament aussi contre Ebola. Mm-hmm. Et puis on a mieux compris où étaient les réservoirs d'Ebola et comment persister ce virus Ebola, y compris chez les survivants d'Ebola. Et ça aussi, c'est un point extrêmement nouveau et très important pour mieux comprendre la suite de l'épidémie.
Merci Jean-François Delfrécy pour ces nouvelles plutôt bonnes, en tout cas porteuses d'espoir. Merci à vous et à demain, Agnès Fèvre.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un autre virus à présent, Zika, qui provoque chez le nouveau-né de graves anomalies cérébrales. Au Brésil, où il est apparu en 2015, plus de la moitié des femmes préfèrent éviter une grossesse ou avorter. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée en juin dernier sur 2000 femmes par des chercheurs de l'université de Brasilia. Alors selon eux, cette étude devrait inciter les autorités à revoir leur politique de santé en matière d'avortement et d'accès à la contraception. Une politique très stricte encadré au Brésil. Comment font les Inuits du Groenland et d'Arctique pour supporter le froid extrême et parfois la moitié de l'année ? Cette question qui taraude les scientifiques renverrait à un ancêtre très lointain, l'homme de Denisovia, une espèce primitive qui s'est éteinte il y a 30 000 ans. Il aurait légué aux Inuits des gènes leur permettant de s'adapter à leur environnement glacial. Ces mutations génétiques ont été identifiées dans une étude parue dans la revue Biologie moléculaire et évolution. Partons enfin à 41 340 milliards de kilomètres de la Terre, vers Alpha Centauri et Proxima Centauri. Ces astres se disputent le titre de l'étoile la plus proche du Soleil. En mesurant leur vitesse relative, une équipe scientifique française vient d'établir que ces étoiles appartiennent au même système. Elles sont liées par les liens de la gravitation. L'étoile la plus proche du Soleil est donc triple. Ce trio stellaire se compose de Proxima Centauri et de deux étoiles collées qui composent Alpha Centauri. Plantes toxiques, serpents venimeux et champignons vénéneux au menu de la Tête au Carré cet après-midi. On part à la découverte des poisons dans la nature. Nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Last Christmas du groupe Wham avec George Michael en hommage au chanteur qui, après un dernier Noël, nous a quittés la nuit dernière.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Et la tête au carré s'intéresse aux poisons en compagnie de Bruno Mégarban, médecin spécialisé en toxicologie. Il exerce dans le service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Également avec nous, Éric Birloez, ingénieur agronome, spécialiste de l'histoire de l'alimentation et auteur de « Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs » aux éditions Ouest-France. Éric Birloez, le premier emploi par l'homme de substances toxiques a sûrement été pour la chasse. Déjà, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, devaient savoir utiliser certains poisons.
Oh oui, très probablement. Donc, il leur suffisait finalement d'enduire la pointe de leur sagaie ou la pointe de leur flèche de substances qu'ils avaient identifiées, souvent à leur dépens, comme étant des substances toxiques. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que le poison, c'est quelque chose qui est ambivalent. C'est-à-dire qu'une même substance, elle peut évidemment être mortelle à forte dose ou en fonction du mode d'administration, mais dans certains cas, à faible dose, elle est non seulement inoffensive, mais bénéfique. Et on pense que les hommes préhistoriques s'étaient rendu compte, par exemple, de l'intérêt que pouvait avoir l'écorce du saule contre les maux de tête. Et on sait aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique extrait l'acide acétyl salicylique, le principe actif de l'aspirine, de l'écorce de saule. Mais le saule, l'écorce de saule, à haute dose, comme beaucoup de plantes, est extrêmement toxique. Donc, il y avait probablement aussi cet usage du poison comme remède.
Alors aujourd'hui, on utilise aussi encore comme remède certains de ces poisons, et aussi encore comme poison dans certaines tribus. On chasse encore avec des flèches empoisonnées.
Comme beaucoup de tribus amazoniennes, les Métis utilisent des sarbacanes avec des flèches empoisonnées. La substance paralysante injectée à ces deux oiseaux, le fameux curare, est extraite de l'écorce de certaines lianes. La première étape consiste à faire bouillir l'écorce avec des feuilles pour concentrer le poison et lui donner son effet foudroyant.
Extrait du documentaire Luxuriante Amazonie diffusé sur Arte en 2012. Bruno Mégarban, s'est composé de quoi le curare ?
Alors le curare tel qu'il était utilisé par ces tribus, c'est un mélange probablement de substances dérivées de lianes, mais qui contient un composé qui a la propriété de paralyser les muscles, c'est-à-dire de couper la conduction nerveuse entre le nerf moteur et le muscle, ce qui entraîne un relâchement des muscles, et donc évidemment une paralysie générale de la proie, et également une paralysie des muscles respiratoires, donc à l'origine d'une asphyxie, donc d'une mort rapide. Mmh. Alors, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, on utilise toujours des médicaments analogues au curare.
Ouais. Ça revient à ce que
dans les blocs opératoires,
Éric Birloez à l'instant. Le curare aussi, bien dosé, bien utilisé, ça peut servir
à
soigner.
Tout à fait. Alors, évidemment, ça n'est plus la molécule initiale extraite des lianes que l'on utilise, mais des molécules de synthèse, mais qui ont le même principe actif, évidemment que l'on connaît parfaitement, dont on connaît les risques, et utilisé à dose adaptée au bloc opératoire, elles sont indispensables pour permettre l'intervention chirurgicale. Le chirurgien a besoin d'une relaxation totale des muscles pour pouvoir inciser et opérer. Évidemment, les curares doivent toujours être administrés en parallèle à une sédation et une analgésie pour permettre l'intervention chirurgicale.
Et comment se fait-il que l'on ne s'empoisonne pas en mangeant un animal qui a été chassé, tué avec une flèche imprégnée de curare ?
Alors, certaines de ces substances peuvent ne pas être absorbables par le tube digestif ou être détruites par l'estomac, puisque dans l'estomac, on a une acidité très importante qui fait qu'un certain nombre de produits végétaux sont neutralisés et donc deviennent inactifs.
Éric Birloez, ces produits, ces poisons que l'on trouve dans la nature, pourquoi ils s'y trouvent dans la nature ? Pourquoi le monde vivant a besoin de produire tous ces produits toxiques ?
Alors, il y a deux raisons, en fait. C'est pour la survie, c'est-à-dire que certains certains animaux et certaines plantes également vont synthétiser des poisons pour éviter tout simplement d'être mangés par des prédateurs. Et puis il y a aussi le caractère venimeux de certains animaux où là, ils vont utiliser le poison pour paralyser, voire tuer leur proie. Donc ouais. c'est le cas des serpents, des araignées, des scorpions, exactement. Donc c'est à la fois pour se défendre d'un agresseur, mais ça peut être également pour se nourrir en ayant une arme de chasse, en quelque sorte.
Et ce dont on s'aperçoit en lisant votre livre, Histoire des poisons, chez West France, Éric Birloez, c'est que ce sont avant tout les plantes. Qui sont toxiques. On trouve plus de plantes qui peuvent être potentiellement mortelles que d'animaux.
Alors nombre d'espèces, c'est clair. Il y a plusieurs milliers de plantes qui sont potentiellement toxiques. Là encore, à forte dose et en fonction de leur mode d'administration. Mais il y a quand même pas mal d'animaux qui le sont également. Donc là, on évoquait les serpents, les araignées, mais il y a aussi des méduses, il y a aussi des poissons. Ouais, il y a également des micro-organismes, des bactéries qui produisent des toxines extrêmement virulentes. Il y a le monde des champignons également, qui est un pourvoyeur de poisons. Et puis dans la nature, on va trouver également, bien sûr, le mercure, l'arsenic, l'antimoine, le plomb, qui eux sont des poisons minéraux également très violents.
Alors, on y reviendra à toutes ces formes de poisons, mais restons un peu sur les plantes. Quelques exemples de plantes toxiques que vous citez avec des noms évocateurs, évidemment, dans votre livre. La belladone, la mandragore, la belladone. Parlez-nous de la belladone.
Alors, belladone, c'est belladonna, belle dame en italien. Pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, les dames de la cour, pour avoir de plus beaux yeux et être encore plus séduisantes, avaient l'habitude de presser quelques gouttes dans leurs yeux, de presser quelques gouttes d'une préparation à base de belladone. Et cela dilatait la pupille et les ophtalmos, il n'y a pas si longtemps, utilisaient également des principes actifs extraits de la belladone, notamment la tropine, qui permettait la dilatation de la pupille et donc l'examen. Alors la belladone, elle a aussi évidemment des pouvoirs mortels à forte dose et également des pouvoirs hallucinatoires, comme d'autres plantes qui étaient utilisées par les sorcières du Moyen-Âge pour avoir des hallucinations. Donc il y a la belladone, il y a la mandragore, etc.
Bruno Mégarban.
Alors la tropine est toujours utilisée en médecine, c'est un médicament fondamental pour les ophtalmos toujours, pour pouvoir effectivement faire un fond d'œil en dilatant la pupille. Et en cardiologie, c'est un médicament important puisqu'il permet d'accélérer la fréquence cardiaque lorsqu'on fait un trouble du rythme cardiaque avec un ralentissement du cœur à la suite, par exemple, d'un malaise vagal. On peut parfaitement accélérer le cœur et permettre au sujet de retrouver sa vigilance en administrant de l'atropine. Okay. Et pour nous, évidemment, l'utilisation de doses élevées d'atropine va entraîner un risque d'hallucination et d'encéphalopathie. Et c'est un effet secondaire de ce médicament.
Ah, d'accord. L'effet hallucinogène vient, il n'est pas souhaité, mais parfois il survient.
Et à l'inverse, la dilatation de la pupille est un signe quasiment d'efficacité thérapeutique. C'est là-dessus qu'on peut mesurer que le patient en reçoit bien.
Et la fameuse ciguë, Éric Birloez, avec laquelle on a condamné à mort Socrate, et on dit qu'il a bu une potion de la ciguë.
Probablement il y avait de la ciguë, mais ce qui est intéressant quand on lit le texte de Platon qui rapporte la mort de Socrate, c'est qu'on ne voit pas vraiment tous les symptômes d'une intoxication par la ciguë, c'est-à-dire des convulsions, des douleurs atroces. La mort de Socrate, telle qu'elle est décrite par Platon, est plutôt une mort assez sereine. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce que Platon a voulu laisser finalement une bonne image de la mort de son maître, Socrate, ou est-ce que, ce qui n'est pas du tout improbable, on mélangeait à la ciguë des opiacés, par exemple, qui pouvaient permettre de limiter les symptômes un peu terrifiant.
On va demander l'avis du médecin Bruno Mégarban. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que Socrate ait bu ?
Alors, effectivement, en tout cas, dans la ciguë, il existe un principe actif qu'on appelle la conine, qui effectivement entraîne. Alors, le mécanisme d'action est complexe. Alors, à la fois, ça active, mais aussi ça bloque totalement la conduction nerveuse vers le muscle. Mmh. Et donc, c'est censé entraîner, au départ, des fasciculations musculaires.
Qu'est-ce que c'est que des fasciculations?
C'est-à-dire des tremblements des muscles de façon très importante, puis une paralysie musculaire générale, un peu comme le curare. Vous voyez, quelquefois, les végétaux ont des principes d'action un peu similaires, et entraînant une paralysie générale et donc une paralysie des muscles respiratoires et donc un décès par arrêt respiratoire. Mmh. Alors, il faut savoir très probablement, cette molécule a, on va dire, un intérêt limité et les risques sont extrêmement élevés. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas trouvé d'application médicale.
Encore. Celle-là, on ne se soigne pas avec. Et
pas encore.
On en trouve en France, de ces plantes.
La ciguë n'est pas rare. Alors le risque, c'est une grande ombellifère qui fait à peu près 2 mètres de haut. On peut la confondre parfois avec la carotte sauvage. Alors la ciguë a quand même une particularité, c'est qu'elle a la tige qui est maculée de petites taches rouges que l'on associait autrefois au sang. Conium maculatum, c'est le nom scientifique, le nom latin, maculée de petites taches rouges. Et puis elle a une odeur assez désagréable quand on la froisse. Mais elle est, ça n'est pas une plante aussi rare que ça.
Et oui, il y en a finalement pas mal dans notre environnement de ces plantes toxiques. Vous parlez du laurier rose, colchique d'automne. L'if aussi, qui est un arbre décoratif qu'on trouve.
Mais tout à fait, on pourrait évoquer également le ricin qui est dans nos jardins publics. Et si on s'avise d'ingérer des graines de ricin, alors à condition évidemment de les avaler, mais de les mastiquer longuement, ça peut être extrêmement, c'est mortel. Donc on a aussi dans notre environnement un certain nombre de plantes, comme les jolies baies de belladone de couleur noire, qui attirent tellement les enfants, qui sont quand même toxiques, comme on l'a vu tout à l'heure.
Allez, on poursuit notre exploration du monde des poisons. Dans un instant, on va s'intéresser un peu plus précisément aux animaux venimeux et aux champignons vénéneux. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. So many heartbreaks. So little time. Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaways, through the wind and driving bed. I looked for Marilyn. I got Jay instead. Yes, I did. But I'll march behind you wherever you may go. I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted country lanes, round the world and back again. When no one C'était To The Rescue, The Divine Comedy sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
La tête au carré.
Carré.
Sur France Inter.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah
bon.
Le pudding à l'arsenic concocté par deux affreux dans le dessin animé Astérix et Cléopâtre. C'est bien la tête au carré que vous écoutez, pardon pour les vieux réflexes du temps d'un bivouac. Et on s'intéresse au poison dans cette tête au carré en compagnie du médecin toxicologue Bruno Mégarban et d'Éric Birloez, auteur de Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs aux éditions Ouest France. Et puis des questions qui arrivent déjà pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Le laurier rose, on en parlait à l'instant. Jean-Michel vous demande, j'en ai plusieurs dans mon jardin, j'ai appris que c'était un poison même à très faible dose, j'ai maintenant peur d'y laisser jouer mes enfants sans surveillance. Qu'est-ce qu'il faut conseiller à Jean-Michel, Bruno Mégarban ?
Alors effectivement, le laurier rose est un poison dangereux, il contient une molécule qui est d'ailleurs utilisée aussi en médecine, ce sont les digitaliques, qui sont utilisés pour traiter l'arythmie cardiaque. Mais lorsqu'on ingère une certaine quantité, alors on va dire les quantités toxiques ne sont pas bien déterminées, mais lorsqu'on ingère une certaine quantité de ce laurier rose, on peut parfaitement s'exposer à un risque grave cardiaque qui peut mener au décès.
D'accord, donc je ne suis pas sûr du tout que vous rassuriez Jean-Michel avec ce que vous êtes en train de dire.
Je dirais qu'il faut être très prudent, effectivement, et ne pas laisser ces plantes à portée d'enfant.
Donc,
ça, c'est certain.
Vous conseillez d'abattre le laurier si je veux envoyer ses enfants dans le jardin ?
Je conseille d'être prudent sans abattre l'arbre, mais en tout cas de s'assurer que l'enfant ne mette pas à bouche les fleurs de ce laurier rose.
Ça n'est pas à prendre à la légère. Alors, on a surtout parlé des plantes toxiques dans cette émission, mais Éric Birloez, vous l'avez dit tout à l'heure, certains animaux sécrètent des toxines particulièrement puissantes. Quelques animaux redoutables en la matière, des exemples.
Alors, il y a ce qui me vient à l'esprit, c'est le célèbre fougou qui est le tétrodon ou le poisson globe, c'est la roulette russe des Japonais, donc c'est un poisson qui sécrète un poison qui peut bien sûr occasionner la mort. Mmh. Et donc, on ne peut le manger que dans des restaurants japonais extrêmement surveillés par l'État.
Et les Japonais en sont très friands du fougou.
En japonais, il se nomme fougou. C'est un poisson bizarre. Il cligne des paupières, il n'a pas d'écailles. Quand il a peur, il se gonfle. Il a surtout une particularité redoutable. Il contient de la tétratoxine, un poison foudroyant. Sa chair est pourtant si délicieuse que les gourmets japonais, au péril de leur vie, ont sacré le fougou mortel, roi des poissons.
S'il y a des morts ? Oui, parfois il y a des morts. Mais quand on mange, on n'y pense pas. C'est tellement bon.
Le fougou a un goût discret, délicat. Il y a énormément de variétés. Et on peut le déguster de différentes façons. C'est ce qui me fait aimer le fougou.
Bruno Mégarban, pas de cas d'intoxication par le poisson fougou en France, rassurez-nous.
Alors non, en France métropolitaine non, mais très récemment, il y a quelques années, il y a eu une famille de personnes qui ont été intoxiquées à la Réunion. Ouais. C'est un poisson qui existe dans l'océan à côté. Et effectivement, il faut être extrêmement prudent et ne pas consommer des poissons vendus de façon... dire libre, sans être sûr de l'origine, en tout cas de la nature de ce poisson. Mmh. Alors oui, c'est la tétradotoxine est une toxine extrêmement dangereuse. En fait, elle bloque ce qu'on appelle le canal sodique, c'est-à-dire un canal qui est nécessaire à la conduction de l'influx électrique sur l'ensemble des cellules, notamment l'influx nerveux, mais également l'influx qui va permettre le fonctionnement du cœur. Et donc, malheureusement, très rapidement, on peut avoir un décès en une vingtaine de minutes après une paralysie générale et des difficultés respiratoires. laboratoire. Ouais,
incroyable que malgré un tel risque, on continue à consommer ce poisson de façon très réglementée, hein, mais au Japon, on continue de le manger.
Oui, absolument, mais c'est le goût du risque. Alors autrefois, le cuisinier qui avait préparé un fugu qui avait tué l'un de ses convives était exécuté. Donc là, on ne tortillait pas, c'était la peine capitale immédiatement.
D'accord. Donc deux morts à la fois, la victime du poisson qui avait été mal coupé et le mauvais coupeur.
C'est extrêmement difficile de découper ce poisson d'une manière, parce qu'évidemment le poison n'est pas visible.
Oui, je crois même que le poison se trouve dans la peau, dans les viscères et particulièrement dans les ovaires chez les poissons femelles.
Et comment expliquer que l'animal en lui-même ne soit pas intoxiqué par son propre poison ? Lui, il est immunisé.
Immunisé, c'est un mauvais terme, mais très probablement, le poison est dans des structures qui ne le mettent pas en contact avec les récepteurs sur lesquels il doit agir.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre, Éric Birloez, du serpent le plus venimeux du monde, le taïpan du désert. Il est absolument redoutable, hein, celui-là.
Oui, alors ça, c'est un serpent. Alors, heureusement, on ne le rencontre pas tous les jours. Il vit dans le désert australien, au centre de l'Australie. C'est un grand serpent qui mesure 2 mètres de haut et on a calculé qu'il serait capable de faire périr une centaine de personnes. Alors fort heureusement, on a peu de chances de le rencontrer, et si on le rencontre, ça n'est pas un serpent qui est extrêmement agressif, à condition évidemment de ne pas l'embêter.
D'accord, ah oui, il reste magnanime malgré
relativement
le pouvoir qu'il a. Quelle différence, nous demande Romain sur la page de l'émission, quelle différence entre les organismes venimeux et les organismes vénéneux ?
Alors, venimeux, c'est un qualificatif qu'on va utiliser pour désigner les animaux qui vont utiliser de manière active le poison. Donc, on l'a vu, c'est pour se défendre de leurs prédateurs ou pour tuer ou paralyser leur proie. Et donc, ce sont des poisons qu'ils vont synthétiser dans des glandes, qu'ils vont ensuite injecter avec un dard, avec des crochets, dans le cas des serpents, avec des aiguillons, avec un dard, etc. On parlera de vénéneux dans le cas de végétaux, champignons vénéneux ou plantes vénéneuses, où là, la plante ne va pas délibérément injecter, bien évidemment, son poison.
C'est son organisme qui est toxique quand on consomme l'animal ou la plante.
Par exemple, des petites chenilles, des petites... des animaux peuvent être venimeux, peuvent être également vénéneux. On a par exemple des petites chenilles qui vont consommer des plantes riches en alcaloïdes, qui vont incorporer et qui vont stocker ces substances toxiques et ça les protège des prédateurs. Elles deviennent, sans être elles-mêmes touchées par le poison, elles deviennent dangereuses pour les oiseaux, par exemple.
Bruno Mégarban.
Alors oui, effectivement, on discute essentiellement de poisons neurotoxiques.
Ouais.
Mais il faut savoir que dans le règne animal, il y a des tas de poisons qui ont d'autres mécanismes d'action, qui n'agissent pas nécessairement sur le système nerveux. Alors, ne serait-ce que dans le règne des serpents, on a des serpents, c'est le cas des vipères, qui peuvent administrer des substances qui entraînent soit une coagulation du sang, soit un syndrome hémorragique. Et donc, évidemment, le but, c'est de faire saigner ou d'empêcher la circulation du sang dans la proie pour que celle-ci décède et que le serpent puisse la dévorer. Et chez l'homme mordu par une vipère, on va avoir ce type de réaction de thrombose extensive à partir du site de la morsure.
Donc thrombose, c'est le vaisseau qui se bouche.
Le vaisseau qui se bouche, le sang qui coagule et le caillot qui se prolonge et qui peut entraîner, bien sûr, des réactions graves du milieu intérieur.
Alors, puisque les mécanismes d'action de ces différents poisons ne sont pas les mêmes, quels sont les bons gestes à avoir dans chacun des cas ? C'est-à-dire, quand je suis mordu par un serpent, est-ce qu'il ne faut pas réagir de la même façon selon le type de venin qu'il m'a injecté ?
Alors, je dirais, pour le non-spécialiste, le plus simple, en fait, à la suite d'une morsure d'un animal ou de l'ingestion accidentelle d'une plante, bien, c'est tout d'abord de contacter le centre antipoison et, bien sûr, de décrire au mieux, voire de prendre une photographie. Alors, maintenant, c'est facile avec les téléphones portables de la plante ou de l'animal supposé avoir mordu, afin qu'un spécialiste de l'autre côté du téléphone puisse faire un diagnostic précis. Et ensuite, évidemment, indique la consultation dans un service d'urgence spécialisé ou, si les choses sont déjà très graves, un transfert par moyen du SAMU vers un centre de réanimation spécialisé comme le nôtre à l'hôpital Lariboisière.
La consigne est la même pour les champignons vénéneux.
La consigne est la même, je dirais, effectivement. Alors, pour les champignons, on peut aussi aller voir son pharmacien. Les pharmaciens d'officine ont parfois une très bonne culture concernant les champignons. Ils peuvent être capables d'identifier les champignons.
Si on a encore un spécimen du champignon incriminé. Quels sont les champignons, d'ailleurs, les plus meurtriers en France, Éric Birloise?
Certains champignons, pas tous, de la famille des amanites, phalloïdes, tumouches, etc. Alors, il y a les champignons qui sont visibles, mais il faut aussi parler de ces champignons qui sont microscopiques. Et évidemment, on ne les voit pas et c'est bien là tout le problème. Ouais. Et on sait par exemple que dans l'histoire des hommes, en Europe par exemple, un des grands fléaux du Moyen-Âge, c'était l'ergot de seigle, qui est un microscopique champignon qui
parasite... C'est de la moisissure en quelque sorte, cet ergot de seigle.
Et donc qui parasite le seigle, mais également d'autres céréales. Et le problème, c'est que quand on l'ingère, on a des symptômes qui sont tout à fait impressionnants. D'ailleurs, cette maladie, on l'appelait le mal des ardents, la peste de feu, le feu de Saint-Antoine. Pourquoi ? Parce que l'individu était pris de fortes fièvres et on avait l'impression que ses pieds et ses mains noircissaient comme s'ils étaient consumés par le feu. Ah oui. D'où le nom. Et en fait, c'est lié à une mycotoxine produite donc par ce champignon microscopique.
Une micro-réaction.
Oui, tout à fait. Cette microtoxine ergoline est à l'origine en fait d'une constriction des vaisseaux. Et là aussi, c'est à l'origine de ce qu'on appelle l'ergotisme. Et cette substance a permis la synthèse de nombreux médicaments. Et donc, notamment pour le traitement de la migraine, où il y a un problème souvent de régulation des vaisseaux. Et l'un des médicaments utilisés jusqu'à très récemment et le plus important pour le traitement de la migraine est à base de ce dérivé.
Et après tout, le LSD.
Et le LSD,
qui est un dérivé de l'ergotamine.
Tout à fait, qui n'est pas un médicament,
mais qui n'est pas un médicament aujourd'hui. Pour se soigner de rien. Allez, après tout ça, vous reprendrez bien un peu d'arsenic et de polonium. On revient sur quelques empoisonnements célèbres dans la tête au carré dans un instant. Et puis nos invités répondront bien sûr aux questions que vous leur avez adressées sur la page de l'émission.
Avant un repas avec la personne qu'il veut éliminer, le criminel verse un peu de cette poudre sur la lame d'un couteau, mais uniquement d'un côté. Ainsi, lorsque l'on coupe la tourte ou le gâteau, seule la part en contact avec le poison est mortelle. De cette manière, l'empoisonneur mange la même chose que sa victime. Mmh. Et ainsi, il n'est pas soupçonné.
Il faut un esprit diabolique pour imaginer pareil subterfuge.
J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher sauvage. En cavale, hey. J'ai toujours rêvé d'être un gringo vivant de rapines, chercheur d'or, chasseur de primes, un vrai salaud, hey. Un desperado. Hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Planqué dans la manche, une balle à mettre dans le dos, du beau cow-boy solitaire, du héros tombeur de squaw, voleur de chevaux, avoir mon portrait cloué au tableau du shérif. Just wanted un desperado hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère.
C'était Jacques Higelin, Lonesome Bad Boy, sur France Inter, dans la tête au carré.
Ce serpent est digne d'une reine et d'une déesse. Pose-le là, à la pliure du bras, sur la veine.
J'espère que cela sera réglé en peu de temps.
Au contraire, cela peut être extrêmement long. Sans compter que cela n'est pas non plus sans douleur.
Je n'ai pas peur de la douleur. Mais ce que je n'ai pas, c'est le temps.
Alors faites-le à la manière des philosophes. Une boisson à base de cigu et d'aconite mélangée avec un peu d'opium pour adoucir la douleur.
Faites partout savoir que Cléopâtre, par la morsure d'un cobra, vient de quitter ce monde pour la vie éternelle, comme ici à la reine d'Égypte.
Extrait du docu-fiction Les femmes qui ont fait l'histoire, consacré à Cléopâtre, diffusé sur Arte. Éric Birloise, le suicide de Cléopâtre par empoisonnement avec le venin d'un serpent. Vous racontez cette histoire dans votre livre Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs chez Ouest France. Alors cette histoire-là, c'est peut-être aussi un peu une légende.
Oui, mais c'est pas non plus complètement improbable. Ce que l'on pense à peu près certain, c'est que Cléopâtre s'est suicidée. Elle s'est quand même probablement empoisonnée. Alors c'est peut-être pas la morsure d'un serpent, mais peut-être du poison qu'elle aurait fait apporter dans une épingle à cheveux ou un peigne creux. En tout cas, si elle a utilisé le serpent, ça n'est pas, ça c'est sûr, c'est une légende, en faisant expérimenter l'effet de cette morsure de serpent sur des condamnés à mort ou des esclaves.
Parce que c'est ce qu'on raconte.
Oui, c'est ce que l'on raconte. Et elle a pu effectivement utiliser un cobra qui donne une mort quand même assez rapide et qui, semble-t-il, ne déforme pas trop le visage de Cléopâtre. Il semble qu'elle n'y tenait pas trop. Et le cobra, parce que c'est un symbole de l'Égypte qui est présent comme ornement sur la coiffe des pharaons. C'est le symbole de la protection du royaume égyptien. Alors, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Là, dans ce cas-ci, il s'agit d'un suicide, d'un empoisonnement volontaire. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup d'affaires d'empoisonnement. Alors là, vraiment de meurtres, notamment à l'arsenic. Alors l'arsenic a été plus tard. Si on regarde au regard de l'histoire, c'est plutôt à la Renaissance.
Absolument. Les premiers poisons qu'on évoquait tout à l'heure étaient principalement extraits des plantes. Et puis, on a perfectionné les méthodes. Et l'arsenic, à partir de la Renaissance, et notamment en Italie, et entre autres par le fameux pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, qui était un grand utilisateur de la cantarella, qui était une préparation à base d'arsenic qu'il utilisait pour éliminer ses rivaux, également les cardinaux, parce qu'il héritait en tant que pape de la fortune de ses cardinaux.
Et alors, vous parlez d'une drôle d'histoire à propos d'arsenic dans votre livre. Un village, je crois que ça se situe en Autriche, où l'on assaisonne ses aliments en saupoudrant de cristaux d'arsenic.
Voilà, où on le faisait en tout cas au milieu du 19e siècle, où un médecin autrichien observe cette pratique tout à fait étonnante, que les paysans de Styrie, c'est une région montagneuse d'Autriche, donc assaisonnent effectivement leur mets, leur boisson également de cristaux d'arsenic, et ils prétendent être en pleine forme et avoir en plus une vigueur sexuelle incroyable. Arsenikon en grec, c'est la mâle puissance, c'est la virilité.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est d'accord,
on le déconseille. Ils en donnent d'ailleurs également à leurs chevaux, simplement parce que ces cristaux d'arsenic, ils vont les trouver sur les cheminées des fonderies. On est dans une région d'extraction des métaux. Ce que disent les spécialistes, c'est que les cristaux étaient probablement trop gros pour qu'il y ait de réels effets toxiques, mais quand même peut-être quelques effets indésirables.
Bruno Mégarban, le toxicologue que vous êtes, nous déconseille formellement d'assaisonner ces mets à l'arsenic.
Alors, on va dire, l'arsenic est un toxique cellulaire, donc il va rentrer dans la cellule d'un peu tous les organes et entraîner une impossibilité de cette cellule d'utiliser l'oxygène pour respirer et donc une mort cellulaire. Alors les cas effectivement d'empoisonnement aigu sont multiples dans l'histoire, mais je dirais beaucoup plus important et malheureusement plus dramatique, c'est l'exposition on va dire chronique accidentelle par la contamination des eaux des nappes phréatiques. Et actuellement, il faut savoir, au Bangladesh, plusieurs millions de personnes sont intoxiquées de façon chronique à l'arsenic. C'est un drame de santé publique extrêmement important, avec des conséquences sur la santé extrêmement graves.
Et là, il n'y a pas d'antidote. On ne peut pas prendre de molécules pour se prémunir des effets de l'arsenic.
Il existe bien sûr pour prévenir, non, mais il existe des thérapeutiques en cas d'intoxication diagnostiquée, ce qu'on appelle des chélateurs, qui vont pouvoir fixer l'arsenic et l'éliminer par voie rénale. marginal.
Aline vous demande sur Internet, une théorie historique aujourd'hui marginale voudrait que Napoléon se soit fait empoisonner à Sainte-Hélène. D'ailleurs, on parle d'arsenic hein, dans le cas de Napoléon.
Oui, absolument.
Comment le démontrer et de quel poison s'agissait-il?
Alors effectivement, on a constaté en analysant des mèches de cheveux de Napoléon qu'il contenait jusqu'à 100 fois plus d'arsenic que la normale. Et tout de suite, on s'est dit, ce sont probablement les Anglais qui ont voulu se débarrasser de Napoléon, qui était quand même déjà à Sainte-Hélène. C'est quand même très peu probable. On penche plutôt aujourd'hui pour une intoxication, par exemple, par le bois de chauffage. L'arsenic est présent dans la nature, on vient de le voir. À Sainte-Hélène, il fait froid, il pleut souvent, on allume beaucoup de feux de cheminée. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que pour conserver les mèches de cheveux de Napoléon, eh bien, on les a fixées avec une préparation contenant de l'arsenic.
Ah, d'accord. Alors, à chaque époque, ces méthodes d'empoisonnement, ces poisons choisis par les empoisonneurs. Un cas beaucoup plus récent maintenant, un cas d'empoisonnement au polonium.
L'enquête a déterminé que l'opération pour tuer Litvinenko a probablement été approuvée par le chef des services secrets russes, Monsieur Petrouchev, et par le président Poutine.
Le 1er novembre 2006, il prend le thé avec deux anciens collègues du KGB dans cet hôtel, un thé inhabituel au polonium, un produit hautement radioactif.
Mon mari a été tué par les agents de l'État russe dans le premier attentat radioactif de l'histoire, en plein Londres.
Extrait d'un reportage de France 2 diffusé en janvier 2016 sur les conclusions donc de cette enquête qui a suivi l'empoisonnement de l'agent secret Alexandre Litvinenko en 2006. C'est une histoire tout droit sortie d'un James Bond, cette histoire.
Oui, mais alors il y en a beaucoup, hein, effectivement. Donc là, c'est le polonium-210 qui est incriminé, donc un élément radioactif qui a été découvert par Marie Curie. Hein, polonium, c'était en hommage à son pays d'origine. Seule la Russie semble être le seul pays qui en produit quelques
polonium.
Dizaines de grammes. Et il a été utilisé, on l'a su après l'autopsie de Litvinenko, il a été utilisé pour empoisonner cet ancien officier des services secrets russes qui mettait en cause un peu trop Vladimir Poutine dans tout un tas d'affaires.
Bruno Megarban.
Alors c'est vrai que c'est un des toxiques idéaux, puisqu'en fait il peut entraîner le décès à une quantité extrêmement faible, jusqu'à 30 000 fois moins de quantité nécessaire qu'un venin de crotale par exemple. En plus, il émet un rayonnement de type ionisant de type alpha, donc qui n'est pas détecté par les compteurs GGR habituels, et il n'est pas dangereux pour les personnes de contact. Il faut en fait que le produit soit absorbé par le tube digestif et diffuse et se distribue dans les organes de l'individu dont on souhaite le décès, pour entraîner évidemment une toxicité grave.
Alors la bonne nouvelle, c'est que si ça donne des idées à des auditeurs,
Il
n'est pas disponible et en plus ça coûte une fortune. Le New York Times a estimé à 10 millions de dollars la dose qui a servi à tuer cet agent secret. Donc a priori c'est hors de prix, mais c'est vrai que c'est un poison redoutable. Merci à vous, c'était passionnant ces discussions sur les poisons. Merci Bruno Megarban, Eric Birlouez. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, aux éditions West France. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, 21 juillet 1969, Objectif Lune.